Mercredi 31 mars 2021, il vient d'être 17h à Niamey, l'heure du journal en français du studio Kalangou, dans une présentation de Rafika Taher. À la une aujourd'hui, une tentative de coup d'état militaire à Niamey déjouée de la nuit du mardi 30 et mercredi 31 mars 2021. À suivre plus de détails dans ce journal. La compagnie minière Dakuta Kominak ferme ses portes aujourd'hui, une fermeture déplorée par certains habitants de la cité d'Akokan. Qu'est-ce qu'un droit de réponse en matière de liberté de presse? L'ancien vice-président du Conseil supérieur de la communication l'explique dans le magazine Ce Soir. À Niamey, des tirs à l'arme lourde et des coups de feu ont réveillé plusieurs habitants riverains du palais présidentiel hier nuit vers 3h du matin. En attendant la version officielle, ce matin, notre reporter a tendu son micro à quelques citoyens. On les écoute.
Les coups de tir m'ont donné une peur bleue parce que selon moi, on allait être attaqué. En ce moment, les événements qui se passent au Niger, tout peut arriver. Et là, j'ai pensé à tout, par exemple, à des coups d'État, et etc.
Au moment où ça se déroulait, j'ai été alerté par ma famille. Automatiquement, j'ai pensé à un coup d'État. Mais finalement, les rumeurs disent que ça a été déjoué. Mais jusque-là, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. D'autres disent que c'est une mise en scène juste pour ne pas que la population sorte aujourd'hui pour faire leur marche pacifique. Maintenant, on ne sait plus quoi.
Bon, pour moi, au tout début, je pensais que c'était des bandits armés qui étaient dans mon quartier. Mais ce matin, j'ai entendu les gens qui disaient que c'était un coup d'État raté. Pour moi, un coup d'État, je ne crois pas.
Le contexte sécuritaire oblige, j'ai d'abord pensé à une attaque terroriste avant de me rendre compte que les tirs provenaient de la présidence. Je pense que le Niger et les Nigériens n'ont pas besoin de ça et souhaitent que la paix, le calme et la sérénité reviennent.
Propos recueillis par le studio Kalangou. Toujours dans la nuit du mardi au mercredi 31 mars, des tirs ont été entendus dans les quartiers proches de la résidence présidentielle à Niamey. Il s'agira d'une tentative de coup d'État contre le régime en place. Quelle est l'atmosphère actuelle à la mi-journée à Niamey? Le constat avec Fanta Chamsou.
Après la tentative de coup d'État déjouée contre le régime en place selon certains médias internationaux, Niamey s'est réveillé ce matin dans une atmosphère assez timide. Dans la rue, les habitants vaquent à leurs occupations malgré quelques commerces fermés. La veille, dans les quartiers proches du palais présidentiel, des tirs ont été entendus aux environs de 3h du matin. Conséquence, la ville de Niamey est fermée. Depuis l'incident de la nuit dernière, personne n'y entre, personne ne sort. Mais cette matinée plutôt calme a vite fait place à quelques échauffourées entre les forces de l'ordre et les manifestants dans les quartiers Wadata et vers le grand marché de Niamey. La coalition CAP 2021 de l'opposition du Niger a lancé un appel à une marche pacifique pour ce jour.
À Niamey, les véhicules sont bloqués à la sortie depuis 3h du matin. Les usagers ne savent plus à quel sens se vouer. Nos reporters étaient à la sortie est de Niamey sur la route de Dosso, toujours à la mi-journée. Voici le constat de Habibou Garba.
Au péage de Niamey en direction de Dosso, c'est plus d'une centaine de bus de compagnie de transport et de particuliers qui sont interdits de sortir depuis 3h du matin. L'accès est bloqué. Rien ne sort, rien ne rentre. Parmi ces usagers, Adam Abdou, conducteur de véhicules de transport passagers. Il vient de Gaya, région de Dosso. Outre les passagers, il transporte du manioc, denrée périssable en cette période de chaleur.
Depuis hier nuit jusqu'à cet instant, nous sommes là, nous n'avons plus rien mangé et personne ne nous a parlé. Auparavant, chaque fois que nous arrivons, nous avons le passage libre, sans problème. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés et on nous a retenus.
Ali Hamidou, dit Sansan, est également conducteur. Il a quitté Niamey pour Douti. Arrivé au péage vers 4h du matin, il constate la fermeture de la route. Impuissant, il compte rebrousser chemin.
Ils ont dit qu'aucun véhicule ne passe. D'ici 11h, si on libère la route, nous allons continuer. Et présentement, j'ai des voyageurs. Je viens de Niamey. Je vais les amener à Douti. Ils sont en train de me mettre la pression. Ils veulent que je leur remette leur argent. Et moi, je refuse. Si la voie n'est pas libérée, ils perdent leur argent. C'est sur ça qu'on s'est entendu.
Selon certaines sources, cette situation est due au tir des armes entendues dans les environs du palais présidentiel hier. Les policiers ne nous ont pas fourni d'explications. Ils nous ont d'ailleurs gardés au poste avant de nous libérer.
Le candidat de l'opposition rejette toujours les résultats du second tour de l'élection présidentielle du 21 février au Niger malgré la validation de ceci par la Cour constitutionnelle. Dans une interview accordée à RFI, Mahamane Ousmane a jugé opportun l'appel au dialogue lancé par le candidat déclaré vainqueur de ce scrutin, Mohamed Bazoum. On l'écoute.
Ça fait 10 ans que moi, j'ai eu à plaider pour que dans ce pays-là, il y ait un dialogue politique. Mais ce régime n'a rien voulu comprendre. Donc, voyez-vous, le dialogue aurait dû avoir lieu bien avant. Ce n'est pas maintenant, après que le peuple se soit exprimé clairement. Ce n'est pas après la fin du jeu, quand l'arbitre a sifflé, qu'il faut venir dire « bon, il faut colmater les brèches ». Pour faire quoi? Et c'est pour cela que vous avez constaté qu'il y a une situation assez tendue dans ce pays-là. Et tout le monde se pose des questions. De quoi sera fait demain? Moi, j'ai suivi les voies légales. J'espère que mes cris de cœur et les faits que j'ai présentés vont être bien compris et pris en compte pour l'intérêt général. Mais si d'aventure ce n'est pas ainsi, bon, vous savez, comme on a l'habitude de dire dans notre pays, ici, là, bon, on s'en remet à Dieu.
À Agadez, la Cominac, compagnie minière d'Akouta qui exploite l'uranium depuis près de 40 ans à Arlit, dans le nord du Niger, cesse officiellement ses activités ce 31 mars 2021. Une situation que déplorent certains habitants de la cité Akokan, rencontrés par notre correspondant Ousmane Oumarou. On les écoute.
Cominac et Arlit, c'est la même chose pour nous. Ce matin même, j'ai entendu la société civile se plaindre en disant que la population est mise dans l'impasse. Car si Cominac est fermé, la ville d'Arlit va disparaître. Les travailleurs qui sont à Arlit et à la Cominac, la plupart font leurs achats ici et là-bas à la Cominac. C'est donc fini pour les commerçants de la Cominac et ceux qui vivent là-bas.
Mon mari et moi venons d'un village de la région de Dosso. C'est le travail qui l'a amené ici. Ça fait longtemps qu'on est là et on vit vraiment très bien. Et là, on va fermer la Cominac. On va repartir de là où on vient. Trouver un autre travail aussi, ça ne sera pas facile. On ne peut que patienter et prier Dieu.
Pas seulement nous, ici à Cominac, même les animaux aux alentours vont sentir que ça ne va pas. À plus forte raison, nous qui sommes ici. Au nom de Dieu, il faut que les autorités puissent faire quelque chose pour ressusciter certaines activités génératrices de revenus à long terme.
Entamée en fin décembre dernier, la vaccination gratuite du cheptel se poursuit dans le département de Dogon-Douchi. Mais avec certaines contraintes, comme l'insécurité, il est difficile d'atteindre les objectifs fixés. Docteur Sadou Moussa, responsable du service vétérinaire chargé de cette vaccination, explique au micro de Abdelaziz Danyouma.
C'est une campagne gratuite de vaccination des bovins, des petits ruminants. Par rapport aux bovins, c'est la vaccination contre la péripneumonie contagieuse. Pour les petits ruminants, c'est la peste des petits ruminants, communément appelée PPR. La nouveauté pour cette année, c'est qu'on a avait eu une disponibilité du vaccin aviaire contre la maladie de Newcastle. On a essayé de mettre aussi à la disposition des producteurs. Nous avons un objectif de 100% pour les bovins. Cet effectif avoisinerait les 250 à 300 000 au niveau du département. Pour les petits ruminants, là aussi on a un objectif de 100% et là aussi l'effectif cible doit avoisiner les 400 000. Mais malheureusement, vu certaines contraintes au niveau de la mise en œuvre de cette vaccination. L'effectif, je dirais pas qu'il est impossible, mais c'est difficile à atteindre parce qu'il y a des contraintes d'ordre sécuritaire, d'ordre alimentaire, des réticences aussi qui feront en sorte que certains éleveurs n'amèneront pas.
Direction Baleyara, où plusieurs personnes pratiquent le commerce du bois, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'environnement, selon le lieutenant Abdoulaye Saleh, directeur communal de l'environnement. Malgré la loi 2004-040 portant régime forestier au Niger qui punit les pratiquants de la coupe du bois, ceux-ci continuent à s'attaquer au gawo, une espèce protégée. Lieutenant Abdoulaye Saleh, au micro de Seydi Abdou Winditan.
La bataille de baobab est un véritable problème dans cette zone. Parce que, qu'on soit éleveur ou vendeur, il te faut abattre au moins 5 arbres pour remplir un seul sac. Tout le monde sait que notre environnement a beaucoup changé. La brousse n'est pas comme elle était les années passées. L'État a répertorié et classé 20 types d'arbres dans le baobab comme espèce protégée. Le Niger a même adopté une loi à ce sujet. Ces arbres ont en majorité disparu et les gens continuent à abattre ceux qui restent. Alors que si tu as un seul baobab sur ton terrain, ta production peut se multiplier par 3 sur un rayon de 15 mètres. Et comme nous sommes aussi des éleveurs, tes animaux peuvent bénéficier des feuilles et du fruit de ce baobab.
La semaine passée, l'ONG Cadre Paix et Développement s'est rendue à Tilia sur les sites attaqués le 21 mars par des groupes armés non étatiques. Le secrétaire général de l'association, Amanaya Irishid, rapporte un mouvement d'est en ouest des éleveurs fuyant l'insécurité. Il est joint au téléphone par Alamine Ouachar.
Nous avons rencontré un grand mouvement des éleveurs de l'est à l'ouest. On a même retrouvé une partie de ces éleveurs dans la zone des AKS, d'autres se sont retrouvés autour de Tilia, d'autres autour de Telemcès, d'autres même ont continué vers Dambutan, Chantabaraden et l'Est. En tout cas, ils ont tous pris la direction de l'Est. Le motif, c'est l'insécurité. Et pour éviter l'insécurité des djihadistes, l'appel du cadre paix et développement, c'est que les populations doivent éviter de suivre les réseaux sociaux. C'est que les gens sont en train de se dire à gauche, à droite, pour pouvoir essayer d'envenimer les choses. Il faut que les gens aient leur pied sur terre, avoir le bon sens et raisonner vraiment de façon à ce que nous trouvons une solution à cette problématique.
Au Niger, le droit de réponse ou de rectification fait partie intégrante de l'ordonnance 2010-35 portant régime de la liberté de presse. Quels sont les textes qui l'encadrent, comment l'exercer, ses implications et sa portée juridique? Réponse de l'ancien vice-président du Conseil supérieur de la communication, Ali Ousseini Suntalma, au micro de Mokhtar Hamadou.
Toute personne physique ou morale qui estime qu'une information erronée a été portée à son encontre a le droit de la faire rectifier et de répondre. Et c'est ça le droit de réponse.
Quels sont les procédés à suivre pour pouvoir répondre à ce droit de réponse?
Il faut d'abord constater que l'information qui a été donnée au public est erronée. Une fois que ceci est établi, celui qui se sent écorché, il s'adresse au directeur de publication de l'organe qui a révélé cette information erronée. Donc, le directeur de publication est tenu, si c'est un quotidien, de rectifier dans l'édition qui suit. Alors, de par la loi, le directeur de publication est tenu dans les mêmes conditions où l'information qui s'est révélée inexacte a été produite. Il est contraint par la loi donc de rétablir la vérité dans le même espace de volume si c'est un support écrit ou si c'est la radio ou la télévision, de prendre le même temps pour réagir et pour corriger l'erreur.
Au cas où le directeur de publication ou bien le directeur de la radio refuse de s'exécuter, est-ce qu'il y a d'autres voies à suivre?
Absolument. D'abord, il ne doit même pas attendre qu'il soit forcé. Si lui-même, le directeur de publication, se rend compte que l'information diffusée ou publié erroné, en principe, l'éthique et la déontologie de notre métier lui commandent de rectifier lui-même avant qu'il ne soit saisi. Ceci étant, s'il ne l'a pas fait, lorsque la personne morale ou physique le saisit, il est obligé, c'est un droit pour cette personne-là de rétablir, et s'il ne le fait pas, le législateur a prévu des sanctions au titre du refus. Le refus de publication, de rectification ou d'un droit de réponse expose le directeur de publication à une peine d'amende, dit le régime de la liberté de la presse à son article 34, à une amende de 250 000 à 500 000 francs sans préjudice des dommages et intérêts auxquels peut prétendre la victime. Maintenant, en cas de récidive, l'amende est portée à 1 million de francs. Le droit de réponse ou de rectification s'exerce uniquement et strictement dans l'organe ayant publié ou diffusé l'information contestée. Il est interdit à tout organe de publier un droit de réponse ou de rectification concernant un confrère, sous peine aussi de peine d'amende de 250 000 à 500 000 et sans préjudice des dommages et intérêts auxquels peut prétendre le confrère.
C'est la fin du journal d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. À suivre le forum sur la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants à Baleyara, cas de la boisson Soukoudaï et autres substances nocives avec Alassane Kouzi Mahamadou.